20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Alexandre Neff, le directeur de l'Opéra de Paris, a choisi de recréer une troupe au sein de sa maison. Troupe qui a vu le jour en septembre dernier et réunit 7 chanteurs qui, depuis 4-5 mois environ, s'épanouissent sur les scènes de Garnier et de Bastille. Certains d'entre eux sont à l'affiche d'Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea, qui se donne en ce moment à l'Opéra Bastille. C'est notamment le cas de la soprano américaine Ilana Lobel Torres et de la basse espagnole Alejandro Baliñas Bieites, que je suis allée rencontrer et qui m'ont raconté leur expérience au sein de cette troupe. Nous les retrouverons donc tout à l'heure à notre micro. Et puis Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindra comme tout le jeudi pour nous emmener cette semaine à Philadelphie. Le temps de s'intéresser à d'autres moments forts de l'actualité musicale, avec une création cette semaine au Grand Théâtre de Genève, un opéra du compositeur espagnol Hector Parra, opéra intitulé « Justice » sur un livret de l'écrivain congolais Fiston Mwanga Mujila, qui nous livre une réflexion sur les intérêts des uns et des autres dans un pays en développement où se mêlent mythes et légendes. Une création qui a été confiée au metteur en scène Milo Rau. Il a choisi de transposer son récit en République démocratique du Congo au cœur d'un fait divers réel lorsqu'un camion-citerne transportant de l'acide a percuté un bus et ainsi causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes. Un opéra à découvrir donc au Grand Théâtre de Genève, 4 représentations du 22 au 28 janvier sous la direction musicale de Titus Engel. L'Orchestre National d'Île-de-France fête ses 50 ans ce mois de janvier. L'Orchestre National d'Île-de-France, créé en janvier 1974 et qui, depuis 5 décennies, sillonne la région Île-de-France, va à la rencontre de ses habitants et développe de formidables actions pédagogiques. Alors, pour fêter cet anniversaire, l'orchestre retrouve son charismatique directeur musical, Keyes Scallion. Il dirigera le concerto pour violon de Brahms et la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, ainsi qu'une création de Camille Pépin, commandée spécialement pour ce 50e anniversaire. Et ils sillonneront donc de nouveau l'Île-de-France. Premier rendez-vous vendredi à Brunois, puis samedi à Provins, mardi à la Philharmonie de Paris, ensuite à Puteaux, Lieu-Saint, Rungis, Maison-Alfort et enfin Villeparisis. Dernière étape de la tournée, le 28 janvier. C'est cette semaine, demain très exactement, que sort le nouvel album du duo Sol Gabetta, Bertrand Jamayou. Alors après Chopin et Schumann, la violoncelliste et le pianiste ont choisi de poursuivre leur exploration du répertoire romantique avec Mendelssohn, à travers ses variations concertantes, ses 2 sonates pour violoncelle et piano, ainsi qu'une romance sans parole. Des pages de Mendelssohn auxquelles répondent, dans un deuxième disque, des pièces de quelques compositeurs contemporains parmi lesquels Jörg Winmann, Heinz Holliger ou encore Wolfgang Grimm, un album, un double album publié par Sony. deuxième sonate pour violoncelle et piano de Mendelssohn avec Sol Gabetta au violoncelle et Bertrand Chamaillot au piano, un extrait donc de leur tout nouvel album qui sort demain chez Sony.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est donc l'opéra Adriana Le Couvreur de Francesco Cilea qui est à l'affiche depuis mardi et jusqu'au 7 février à l'Opéra Bastille, dans la mise en scène de David McVicar, mise en scène d'une esthétique particulièrement raffinée avec de somptueux décors, costumes et jeux de lumière évoquant notamment des tableaux de Watteau pour nous raconter la vie de la tragédienne Adrienne Le Couvreur, l'une des grandes figures de la comédie française, admirée notamment en son temps par Voltaire. Alors c'est Anna Netrebko qui incarne le rôle-titre, en tout cas jusqu'au 25 janvier, puis Anna Pirozzi, aux côtés de Youssif Evazov, Ekaterina Semenchouk, Clémentine Margen, mais aussi de quelques membres de la toute nouvelle troupe de l'Opéra de Paris, parmi eux la soprano américaine Ilana López Torres et la basse espagnole Alejandro Baliñas Bieites, que je suis allée rencontrer il y a quelques jours entre deux répétitions à l'Opéra Bastille. Alors tous deux se connaissent bien puisqu'ils sont issus de l'Académie de l'Opéra de Paris. Leur entrée dans la troupe se situe finalement dans le prolongement de leur formation au sein de l'institution lyrique parisienne.
Dans la troupe, c'est différent de l'Académie parce que là, on peut se concentrer sur les rôles, sur être sur scène et pas dans les petits concerts chaque mois et tout ça.
Oui, en fait, c'est la vraie expérience complète sur scène avec les plus grands chanteurs au monde. Et ça, c'est la chose plus importante pour moi, de pouvoir faire pendant toute la saison beaucoup de rôles dans beaucoup de langues, et différentes productions, différentes musiques. C'est le rêve qu'on attendait avant d'arriver ici.
Ouais. Et puis c'est encore une idée de troupe. Vous étiez quelque part en troupe à l'Académie, cette notion de famille que vous reproduisez ici. Quelles sont les valeurs d'une troupe qui vous stimule peut-être ?
On a la chance qu'il y a des bonnes amitiés dans les membres de la troupe. Évidemment, Alejandro, Marine et moi, on a déjà amis pendant l'Académie. Mais à les autres qui arrivent, elles sont très sympas. Il y a beaucoup de soutien, d'amour et d'amitié.
Quand on arrive ici, on est tous jeunes chanteurs qu'on veut arriver peut-être un jour, j'espère pas trop l'avenir, faire les choses qu'on voit ici avec les grands rôles. Et voilà, on a tous, je crois, un peu le même rêve, non? Avec comme un team, comme une équipe, comme une troupe, comme une vraie troupe. Mais c'est à nous qu'on fait ça. Peut-être, voilà. C'est pas une question de les valeurs officielles de la troupe de l'Opéra National de Paris. C'est entre nous que je crois qu'on est un groupe très, très sympa et on s'aide, on le sont les autres.
Et alors, le principe d'une troupe, c'est d'avoir aussi, pour un jeune chanteur, une stabilité professionnelle, une stabilité financière, ce qui est assez rare pour un artiste. Cela vous permet finalement de vous sentir plus libre, plus serein par rapport à ce début de carrière ?
Absolument. Il n'y a pas de meilleur sentiment pour un chanteur de savoir que vous avez le travail dans l'avenir.
Je dirais pas libre. Parce que libre, on est tout le temps en train de travailler ici et on n'a pas le temps de faire autre chose que de chanter ici. Mais je dirais tranquille, parce qu'on a la tranquillité d'avoir le salaire chaque mois, on a l'instabilité, ça c'est très important aussi.
On a du temps pour trouver un agent sans d'être pressé, de prendre des auditions. Qu'on est à Paris, il y a beaucoup d'auditions là et tout ça, donc.
Mais c'est vrai que c'est un statut très exigeant. Vous avez plusieurs rôles différents. Vous chantez énormément pendant toute cette saison. Combien de rôles, par exemple, pour vous cette saison ?
Moi, je chante. J'ai déjà chanté à Hoffman. 5 rôles. Je fais 5 rôles cette saison.
Et moi, je fais 4 rôles dans 4 langues différentes.
Et quelquefois, les productions se chevauchent. Vous chantez un rôle tout en préparant une autre production.
Oui, en fait, là, je suis en train de répéter Traviata et Adriana. tous les deux en même temps. Donc, moi que j'aime l'opéra et j'aime travailler beaucoup, je suis dans, par exemple, la scène orchestre d'Adriana, et quand j'ai mon livre, je cours tout de suite au 8e à Balanchine pour faire un petit répète de Traviata. Mais ça, c'est belle, je trouve que c'est très bien.
Pour moi, j'ai réalisé à quelle vitesse je peux apprendre la musique. C'est comme Alejandro a dit, il est dans Traviata et Adriana en même temps. Et moi, je suis dans Adriana maintenant. Il y a, dans 2 semaines, on commence Exterminating Angel. Et la musique est extrêmement difficile. Donc, d'être là sur scène, chanter Adriana, et dans les studios, apprendre la musique, c'est impressionnant.
Moi-même, je sens que j'ai beaucoup progressé avec le rythme de travail, en fait. C'est la même chose. J'étais sûr que je pouvais faire tous les deux, et voilà, mais il faut le faire. Vraiment, après, une chose c'est l'idée, après l'autre chose c'est la réalité. Donc là, je suis très content parce que j'ai déjà fait les Contes of Mars, c'était très joli. Et là, je suis très content parce que dans ce moment-là, ici à Paris, avec Adriana à travers les Contes of Mars, c'était incroyable. Donc je me sens très chanceux.
Alejandro Balinas Bieitas dans un air de Zarzuela de Salvador Codina en concert, c'était en janvier de l'année dernière avec Gustavo Dudamel et l'orchestre de l'Opéra de Paris. Alejandro Balinas Bieitas, membre aujourd'hui de la troupe de l'Opéra de Paris, tout comme Ilana Lobel Torres. Tous deux participent cette saison à différentes productions et s'illustrent ainsi dans des répertoires particulièrement variés. Une versatilité essentielle à leur développement personnel, comme ils me l'ont confié.
Oui, je crois que c'est très important parce que si tu as 5, 6, 7 langues que tu peux chanter, ou tu as déjà débuté le rôle dans cette langue-là, ils sont toutes possibilités que tu peux offrir. Moi, comme professionnel, je dois chercher toujours d'offrir le maximum de possibilités possibles pour travailler. Et je crois que c'est très important pour les jeunes qu'il faut chercher de chanter. Ok, le russe est très difficile, oulala. Tu vas chercher et peut-être un jour, c'est pas comme italien ou français, mais c'est important.
Pour nous, dans la troupe, c'est spécial parce qu'on chante toujours les petits rôles. Et il y a des opéras que je n'avais pas connaître, comme la Ferme Acropolis, par exemple. C'était très difficile, c'était un opéra de Janáček, et c'était ma première fois que j'ai chanté quelque chose comme ça. Et Je crois que si j'avais pas chanté ce rôle ici, j'avais jamais découvert ce répertoire. Et maintenant, je sais que j'aime tant.
Et alors là, vous chantez en ce moment, entre autres, dans cette production d'Adriana Lecouvreur, qui n'est pas un opéra si connu. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre rôle, sur cette production? Comment est-ce que ça se passe?
En fait, nous sommes les quatre comédiens et c'est presque similaire de notre vie, en vrai. Je suppose, on est la troupe, on joue les petits rôles. Et c'est Adriana Lecouvreur, elle a Duclos, qui est le grand star. Et on rêve d'être là, dans leur place, quelques jours. Et c'est comme la vie.
Oui, je crois que je parle un peu de la production. Je dirais la même chose qu'il a dit le metteur en scène, en fait, le premier jour. Et je me souviens de cette phrase qui, je crois, la parfaite définition de la mise en scène, qui est une lettre d'amour au théâtre. Je crois que c'est très proche à l'idée de cette prod-là. Je trouve que le niveau de chanteur, il est vraiment incroyable. Et la prod est très, très, très sympa. Je crois que vous devez venir la voir.
Et vous côtoyez de grandes stars dans cette production, comme Anna de Trepko, par exemple. Comment se passe le travail avec ces grands chanteurs? Est-ce que vous sentez une émulation quand vous côtoyez ces chanteurs?
Absolument. Pour moi, d'être sur scène avec la grande Anna de Trepko, c'est une chose pour moi que c'est presque incroyable. Quand j'ai commencé à chanter d'opéra, quand j'étais 17 ans, quelque chose comme ça, je regardais tous les vidéos d'Anna de Trepko pour prendre conseil, d'apprendre tous les airs. Et maintenant, je suis là avec elle. C'est vraiment incroyable.
La soprano Ilana Lobel-Torres dans l'air de Barberine des Noces de Figaro de Mozart, captée la saison dernière à l'Opéra de Paris. Ilana Lobel-Torres et Alejandro Balinas Bieites comptent donc parmi les premiers membres de cette troupe, nouvelle troupe de l'Opéra de Paris, qui réunit 7 chanteurs et sera amenée à se développer, à accueillir prochainement de nouveaux membres. Une troupe de jeunes chanteurs qui se distingue encore des troupes qui peuvent exister en Allemagne ou en Suisse, qui fait office finalement de tremplin pour des artistes en début de carrière, désireux de se perfectionner, de se faire connaître, ou encore de créer des contacts à Paris. Il s'y engage pour une ou plusieurs saisons. Alejandro Balinas Bieites a choisi de n'y rester qu'une seule saison, tandis qu'Ilana Lobel-Torres souhaite, elle, prolonger l'aventure. Il nous éclaire justement sur leur démarche.
Ça, c'est ma première et dernière année à la troupe pour le moment. Mais je trouve que ça sera très intéressant que d'autres gens y viennent. Et plus, en fait, je crois que c'est bien que... Et ça sera plus jeune l'année prochaine.
Moi, je reste pour la saison prochaine, mais l'idée de la troupe de rester par une saison, deux saisons et peut-être trois, car les contrats sont à chaque saison. On a le choix de rester ou pas. Moi, je reste là. Je suis contente.
Alors justement, l'après-troupe, vous y pensez concrètement, j'imagine, quels sont vos projets pour les saisons suivantes? Comment voyez-vous votre avenir?
Challenging. Parce que j'ai pas beaucoup de choses, mais ils sont des choses qui sont pour moi intéressantes de faire. Et voilà, malheureusement, je peux pas dire oui en deuxième année parce que c'est pas possible d'être toute l'année ici et faire les autres projets ici, là. Pour l'instant, c'est comme ça parce que j'ai aussi besoin de faire autre chose et je serais très content de tourner ici. Ça, c'est sûr. Mais je trouve que c'est un moment de, pour moi, d'expérimenter aussi, de faire autre chose et voilà, voir.
Et pour vous, Ilana?
Pour moi, comme je suis américaine, c'est très important pour moi de faire une carrière ici en Europe, mais aussi qu'aux États-Unis. Donc, il faut trouver des projets et des autres maisons.
D'autant que vous avez passé beaucoup de temps en France.
Oui, il y a presque 5 ans, je crois. Ouais. Et le français arrive.
Eh bien, merci infiniment. On vous souhaite bonne chance, Toy Toy, pour toutes ces productions, pour la suite de l'aventure au sein de la troupe et puis pour les aventures à venir. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Io son l'umile, un air d'Adriana Lecouvreur de Francesco Tilea, chanté ici par Anna Netrebko, avec l'Académie Sainte-Cécile et Antonio Papano. Anna Netrebko qui reprend donc ce rôle d'Adriana Lecouvreur en ce moment à l'Opéra Bastille, où elle fait merveille d'ailleurs, dans la mise en scène de David McVicar et sous la direction de Yader Binyamini, et avec parmi ses partenaires quelques membres de la troupe de l'Opéra de Paris.
Le coup de cœur de la Croix, avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Direction Philadelphie cette semaine.
Oui, nous traversons l'océan et en ces temps où hivernaux, où l'actualité du monde n'est pas très riante, je vous propose de trouver la chaleur, le brillant et le réconfort qui nous manquent dans la musique. Et donc en route pour la métropole est-américaine où du 18 au 20 janvier, le Philadelphia Orchestra et son chef Yannick Nézet-Séguin, que nous évoquons régulièrement ensemble tant son actualité est riche et diverse, nous invitent donc dans leur ville. Le programme promet des soirées rythmiquement explosives et entraînantes avec Petrouchka de Stravinsky, la deuxième symphonie de Kurt Weill et la fameuse Rhapsody in Blue de Gershwin. Et si les mélomanes sont souvent familiers de la première et de la troisième de ses œuvres, donc Petrouchka et la Rhapsody, il n'est sans doute pas inutile de nous attarder un petit peu sur cette deuxième symphonie de Kurt Weill, le compositeur notamment de l'opéra de Katsu.
Comment justement, Emmanuel, cette symphonie se situe-t-elle dans l'œuvre de Weill?
Alors, on va rappeler en effet que le compositeur qui est né à Dessau en 1900, en Allemagne, Dessau est décédé 50 ans plus tard à New York, est avant tout connu pour les partitions qu'il a écrites pour le théâtre et en particulier pour ses collaborations avec Bertolt Brecht. Mais après une première symphonie écrite en 1921, perdue et finalement retrouvée et créée beaucoup plus tard à la fin des années 50, il en composa une seconde en 1933-34, alors que chassé par la montée du nazisme comme tant d'artistes d'origine juive, il s'était exilé à Paris. La partition lui a été commandée par une grande mécène des arts et en particulier de la musique, la princesse Edmonde Polignac. Mais la création de cette deuxième symphonie en octobre 1934 n'eut pas lieu à Paris mais à Amsterdam par le Concertgebouw et sous la direction d'un des plus grands maestros de l'époque, Bruno Walter. Bien oubliée ensuite, elle ne fut réellement redécouverte par les orchestres que dans les années 80. Et c'est une bonne chose parce qu'on y goûte la fibre théâtrale, narrative et mélodique qui caractérise Kurt Weill. Elle témoigne aussi de la science musicale de son auteur. À Berlin, il faut rappeler qu'il avait été élève de Ferruccio Busoni, un grand maître notamment du contrepoint. Et vraiment, Weill s'inscrit là comme un héritier de la grande tradition symphonique germanique depuis Haydn en passant par Beethoven et Brahms. C'est donc vraiment une heureuse initiative de la part de l'Orchestre de Philadelphie, des musiciens et du chef, de défendre cette partition, encadrée de deux pièces qui emportent légitimement aussi l'adhésion des auditeurs. Donc voilà, c'est qu'on sertit cette symphonie de Weill entre deux grands succès. Et pour nous quitter, on va en écouter quelques notes. Le début de la symphonie qui a bénéficié d'un très bel enregistrement par l'Orchestre de Rotterdam, dont d'ailleurs a été le chef Yannick Nézet-Séguin. Voilà, donc la boucle est bouclée. Et là, c'est la Afshani qui est à la baguette.
début de la symphonie numéro 2 de Kurt Weill par l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Ella Afshani, merci Emmanuel pour ce voyage à Philadelphie.
Merci Laure.
Et à la semaine prochaine. Merci à Diane Chambriard pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Christophe Rousset qui viendra nous présenter sa très riche actualité. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.